pourquoi j'écris? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça.
Qu'est-ce à dire? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Studio Zef pour la dernière émission du Vent dans les pages, je suis trop triste. Mais bon, on se retrouvera certainement l'année prochaine, bon, on en parlera plus tard, voilà. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils lecture avec Catherine et Anne qui nous rejoindront en septembre prochain, on les retrouvera à la rentrée. C'est une émission consacrée à l'édition, aux éditeurs et éditrices locaux que je vais vous présenter. Tout de suite. Alors, à ma gauche, j'ai près de moi François Beaujouan et Felipe Martinez. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous représentez, vous êtes les créateurs des éditions L'été, on va en parler tout à l'heure. Je vous avais déjà interviewé lors du Salon du Livre des Rendez-vous de l'Histoire de l'année dernière. Et donc on va voir l'évolution depuis. Et puis, à ma droite, il y a Lolita Voisin. Bonjour Lolita.
Bonjour.
Bonjour mademoiselle. Lolita, bien connue des auditeurs et auditrices de Studio Zef. Et puis, tu fais quelques émissions, il me semble.
Oui, on m'entend parfois sur les ondes, surtout le lundi matin et puis d'autres moments.
Et tu vas nous parler... tu vas commencer tout de suite. Allez, paf. Tu vas nous parler un petit peu de tes projets d'édition, d'écriture, de photographie. Enfin, il y a beaucoup de projets sur le feu.
Oui, alors c'est vrai que tu as toujours le chic pour être à la pointe des nouvelles, puisque je viens tout juste d'imprimer en fait le premier numéro d'une revue qu'on lance avec des amis et qui justement a le titre d'une émission de radio que je réalise sur Studio Zef depuis quelques années qui s'appelle La moindre des choses. Et l'idée, c'était de transformer justement cette notion de rencontre, de petites choses que les gens font, qui sont souvent formidables, mais il suffit pour ça quand même d'y prêter une oreille particulière. Et c'était l'idée de transformer ça en objet papier. Et donc, on a travaillé plusieurs années avec des amis, Valérie Massato, qui est aussi connue d'ici, sur les ondes. Et puis, on a créé... ça y est, le premier numéro est sorti. Donc, tu es tombée pile à temps en me demandant de venir.
Super. Voilà, alors, est-ce que tu peux, rentrer dans les secrets de la fabrication, mais un petit peu, expliquer comment ça s'est passé au niveau de la conception et puis, très concrètement, comment ça vous avez été jusqu'au bout, jusqu'à l'impression, quoi, en fait, du projet.
Au début, on avait un peu cette... moi, j'avais envie que la radio s'incarne sur le papier. Donc au début, il y avait cette idée de grand entretien, en fait, de retranscrire déjà une des émissions de radio. C'est pour ça que ça s'appelle La moindre des choses. Donc au début, on avait cette idée de texte, un texte fort qui serait une transcription d'une émission de radio. Et puis autour de la description de ces sons, petit à petit, en m'associant avec des amis qui sont eux-mêmes... Qui sont peintres, photographes, mais à leurs heures perdues en quelque sorte, c'est pas au cœur de leur pratique.
Métier.
Voilà. Mmh. Et parfois même, je pense même qu'ils le savent pas vraiment, ou qu'ils l'assument pas tout à fait. Et donc on s'est dit, mais en fait c'est aussi toutes ces choses là qu'il faut valoriser et en fait tous ensemble regarder comme c'est chouette. Et après on pourrait aller demander à d'autres gens qui doivent tous avoir dans leur placard, dans leur tiroir, des petites choses comme ça qu'ils font, qui sont assez merveilleuses, mais qui le savent pas. Donc on s'est associé au début à quatre amis, on s'est fait des week-ends d'imagination, de création, donc ça prenait souvent la forme de ce qu'on appelle ça, enfin moi j'appelle ça un chemin de fer, c'est-à-dire on dessine en fait des petites pages et puis on essaye d'imaginer ce qu'il y aura dessus, donc des photos, du texte, des textos, ça peut être aussi des cartes postales, ça peut être plein de choses différentes.
Excuse-moi, ça veut dire que vous n'aviez pas précisément de thème, de thématique. Vous saviez ce que vous vouliez faire, en gros, mais pas précisément la thématique, sujet.
Il n'y avait pas de sujet, on avait plutôt une intuition qu'on voulait créer quelque chose à partir de toutes ces petites choses. Mais on n'avait même pas d'idée de format. La forme, elle était encore lointaine. Ce qu'on voulait, c'était arriver à un objet papier, ça c'est sûr, mais... On allait dans les librairies, on regardait plein de choses et on est passé de... Je me souviens qu'à un moment donné, on voulait faire une revue immense qui pouvait faire plusieurs mètres quand on la dépliait à, je l'ai devant moi, numéro 1 finalement, il est tout petit, il ressemble à un petit livre, type livre de poche. Voilà, donc on est passé vraiment par plein d'idées différentes. Et on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est vrai que c'est entre l'idée d'avoir quelque chose en papier et l'impression réellement, donc l'objet qui est là, il y a quand même vraiment beaucoup de temps parce qu'on n'ose pas, on n'ose pas trop l'imprimer. Donc en fait, ça fait bien deux ans et demi en fait qu'on conçoit cette revue. Donc voilà, mais c'est avant tout passé par des discussions, par des week-ends entre nous et puis par beaucoup voilà, de lectures, d'explorations. Et il est quand même vrai qu'un jour... Ce qui a tout déclenché, c'est le fait de se retrouver vraiment à deux avec Valérie, toutes les deux. Et où là, en fait, en un week-end, on a tout déclenché, tout fait et trouvé, en fait, on en parlera peut-être, mais trouvé la façon dont la revue s'organise, trouvé sa récurrence, trouvé même son design. Voilà.
Ouais. Et ça, c'est acté ? Toutes ces choses sont plus ou moins établies.
Ouais. On va essayer de s'y tenir parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'on hésite que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se lancer. Donc, on va essayer de s'y tenir. Après, suite à l'impression du premier numéro, il y a des erreurs de débutants flagrantes qu'on va quand même essayer de résoudre. Par exemple, juste la gestion des marges, des polices, tout ça. Mais sinon, on va s'y tenir dans la forme et dans le choix, effectivement, de parce qu'il y aura 4 numéros par an, un par saison, et ça suit une petite phrase qu'on s'est donnée, qui, je me souviens, était sortie comme ça, toute seule, spontanément. On va essayer de se tenir à ça. Il faut aller jusqu'au bout de l'idée, il ne faut pas changer tout le temps d'idée, donc on va essayer.
Alors, est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait donc 4 numéros par an ? Est-ce que tu peux éventuellement dévoiler le petit mot d'ordre, on va dire, ou pas tout de suite ?
Si, ouais, complètement. C'est possible, donc c'est
on le a premier numéro qui est sorti là.
Voilà, on a trouvé une sorte de haïku, de petite phrase qui est sortie comme ça toute seule. Parfois les mots surgissent et donc cette phrase, c'est se perdre la nuit au goût du jour. Et en fait, on a divisé cette petite phrase en 4 mots. Du coup, se perdre, c'est le numéro 1. Ça correspond à l'hiver, à la saison de l'hiver. La nuit, c'est celle qu'on est en train de faire en ce moment, c'est le printemps. Au goût, ce sera l'été, ça ira bien avec les fruits de l'été. Et du jour, ce sera l'automne, justement, là où la lumière change. Donc voilà. Après, c'est juste c'est pas vraiment un thème, c'est juste une sorte de... Je pense que c'est juste une sorte de, ouais, de lumière en fait, qui nous permet de rassembler tout ce qu'on collecte. Donc c'est vrai que ça guide un petit peu les auteurs, mais on peut nous envoyer n'importe quoi. On arrivera forcément à le transformer justement en fonction de cette thématique. Mais donc là, le premier numéro, c'était « Se perdre » et le prochain, ce sera « La nuit ».
D'accord. Et pour décrire un petit peu, pour avoir une petite idée peut-être un peu plus précise de ce qu'il y a dans cet ouvrage, donc j'ai vu qu'il y avait des photos, j'ai vu qu'il y avait de la poésie, mais pas seulement, il y a aussi du dessin, c'est-à-dire que c'est vraiment l'expression finalement de chacun de chaque personne de ton entourage, et c'est spontané, c'est ce qu'ils ont eu envie de te donner, il n'y avait pas de commande à la base.
Oui, c'est ça. Hein. Après, on sait un petit peu qui a certains... Enfin, c'est vrai que parfois, on côtoie tous dans nos entourages des gens qui font des choses merveilleuses, mais qui osent pas le montrer vraiment. Donc, parfois, on aide un petit peu et on commande quand même en quelque sorte en disant « Bon, ce serait vraiment bien que tu nous fasses un récit de ton voyage quand même. » Parce que, par exemple, il y a une personne chinoise qui voyage toute seule dans des lieux complètement improbables. Et là, elle a rencontré des samis et elle a vécu une sorte de transe. Et elle, on lui a demandé un petit texte. Donc, on l'a gardé en anglais. On lui a demandé un petit texte de description très concrète de ce qu'elle avait vécu.
Donc, les samis, juste pour préciser, peuplade d'Europe du Nord.
Ouais. Tout à fait. Donc, il y a par exemple Alban qui réalise des photos en noir et blanc, argentiques, très belles, mais pareil, qui dorment dans ses cartons. Donc ça, on lui a demandé. Après, en fait, c'est vraiment des petites choses qui nous paraissent jolies une fois mises en valeur, qui nous paraissent assez extraordinaires. Par exemple, il y avait un ami de Masato qui voyageait en Europe, qui est japonais, et qui du coup postait sur Facebook des petits commentaires de son voyage en japonais. Et en fait, il y a un bouton automatique sur Facebook qui permet de traduire, et il y a écrit « traduire avec Bing », qui est un logiciel de traduction automatique. Et ça créait des sortes de poèmes magnifiques, enfin à mon goût. Et du coup, moi, j'ai collecté pendant des mois, j'ai collecté tous ces commentaires que je traduisais avec Bing. Et voilà, c'est ce genre de petites choses qui font partie du quotidien des gens. écrire sur Facebook, pour certains, c'est vraiment de l'ordre du quotidien. Et pourtant, on peut, à un moment donné, je pense, le transformer pour en faire quelque chose de un peu plus beau.
Oui, parce que c'est vrai que cet objet, c'est... Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est, comme on dit, un mot à la mode conceptuel ou c'est... Enfin, moi, je le prends plutôt comme un objet poétique. Mais est-ce que c'est voué, comment dire, d'abord, est-ce qu'on va le voir, est-ce que tu aimerais qu'on le voit un jour en librairie, est-ce que, c'est quoi l'avenir de ce projet dans ta tête pour l'instant, comment tu vois ça?
Bah, on aimerait bien effectivement qu'il soit accessible. Au début, notre première idée, c'était de l'imprimer et ensuite de choisir des personnes au hasard dans l'annuaire et de l'envoyer au hasard à des gens en leur demandant, voilà, en échange, vous recevez ça, en échange, n'hésitez pas à nous renvoyer quelque chose, un petit rien que vous avez quelque part chez vous, avec vous. Bon, finalement, on a un peu abandonné parce que c'est quand même un objet papier qui a un certain coût de fabrication. Et puis, c'est vrai que le hasard... comme François ou Felipe le disaient tout à l'heure, il faut aussi un petit peu le diriger, donc peut-être qu'on peut faire ça autrement. J'aimerais bien qu'en fait, à terme, les numéros soient riches de plus en plus de personnes qui participent et qui peuvent participer qu'une seule fois. L'objectif, il n'y a aucune récurrence, y a aucun... c'est en toute modestie, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de donner, puis on sait qu'on fait confiance dans les personnes qui vont transformer ce qu'on envoie. Quoi. C'est vraiment très, très libre. Et l'objectif, ce serait effectivement de perdurer l'objet papier et puis d'avoir une version peut-être sur Internet, un site Internet qui permet de lire quelques jolies choses et puis surtout de commander la revue. Mmh. Et puis on aimerait bien effectivement qu'elle soit accessible en librairie, mais on est au tout début en fait, c'est vrai, de l'impression. Donc en fait, c'est des plans qu'on n'a pas encore vraiment justement conceptualisés, ouais, on ne sait pas exactement.
Ça peut être quand même une envie, des désirs, enfin...
Oui, voilà, quoi, j'aimerais bien que ce soit un objet que les gens puissent acquérir et pas trop cher, voire même, voilà, au début, on avait une envie de gratuité et surtout puissent aussi que ce soit plein de petits fragments de poésie, comme tu dis, qui eux-mêmes rebondissent. Et par exemple, il y a effectivement un petit mot à l'intérieur de la revue qui dit bien « envoyez-nous quelque chose à telle adresse ». L'objectif, c'est que ça se diffracte en fonction des personnes qui rencontreront cet objet.
Alors, est-ce que, une petite dernière question avant de passer aux éditions L'été, est-ce que la passerelle entre le son, la radio, la moindre des choses à la radio, et la version papier, est-ce que tu as gagné des choses, tu as perdu des choses, tu as appris des choses, est-ce que c'est satisfaisant ou... T'en tires déjà une conclusion ou c'est
très difficile.
C'est
en fait,
difficile.
Hein. Le son à l'écriture, ouais. En fait, c'est très difficile entre l'idée et la réalité. Effectivement, il y a un grand pas. Alors, en fait, au début, je pensais que je pouvais retranscrire un entretien et que le sens serait là. Et en fait, à la radio, le sens est partout autour. Il y a pas de. On est immergé en fait dans l'univers. Il y a pas que ce qui est dit. Il y a la voix, il y a l'émotion, il y a l'ambiance, il y a l'atmosphère. En fait, tout ça disparaît sur le papier. Il reste que les mots. Donc en fait, il me manquait énormément de choses quand je me suis mis à transcrire. Alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis aussi à décrire justement les sons, les ambiances. Donc par exemple, dans l'entretien, il y a effectivement la personne qui parle où j'essaye de garder aussi son phrasé. S'il répète deux fois le même mot, je l'ai répété deux fois le même mot. Et puis parfois, je raconte, par exemple, les cris des enfants se répètent. On entend le ballon cogner contre un fil métallique. Le temps que le son parvienne jusqu'en haut de la tour, il est devenu sourd et voilé. Ainsi commence Crying Songs des Pink Floyd pendant que les cris des enfants jamais ne s'arrêtent. Donc j'essaye aussi de raconter la mise en son. Parce qu'en fait, c'est très
une tentative.
C'est très difficile d'écrire, d'écrire le son.
Carrément. Ce ne sont que des tentatives.
Oui, exactement.
Merci Lolita. Bah, merci écoute, si on a 5 minutes, on revient vers toi
avec
tout
plaisir.
À l'heure. Et puis, messieurs, on ne s'endort pas quand même. Alors, ça vous inspire des choses, non?
Ah oui,
oui,
oui. Notamment dans la recherche des petites choses du passé ou un peu oubliées, comme tu disais. En fait, là-dessus, on a un peu la même démarche, quoi.
Oui. Et justement, expliquez-nous votre démarche. C'est quoi les éditions L'été? C'est qui? Ça existe depuis quand? Enfin, on veut tout savoir.
Alors, L'été, c'est ça a un an et demi. On a créé cette branche édition au sein de l'association Vue d'Art, qui existe depuis 86. donc qui est une association qui a fait des choses, qui s'est endormie aussi pas mal de fois. Et je l'ai un peu réveillé avec ce projet d'édition modeste. Alors le point de départ, c'est vrai qu'il est, on peut être très proche avec le projet de Lolita, mais l'idée c'est de comment faire un objet avec trois feuilles de papier A4. Et donc le point de départ, il est là, et c'est aussi comment aider un auteur à fouiller dans ses cartons et à remettre en surface des choses un peu oubliées, quoi. D'où le nom de l'édition L'été, le mythe de l'oubli.
Oui, c'est pas l'été, la saison. Hein,
non, le mythe de l'oubli, donc qui est un mythe qui est un petit peu vaste. Hein, il est plein d'ambiguïté, il y a plein de directions. Mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est sortir de l'oubli, entrer dans l'oubli, on ne sait pas. Donc être publié aux éditions L'été, ça peut être entrer dans l'oubli. Mais voilà.
Alors, vous faites... je ne sais pas, est-ce que vous êtes spécialisé plutôt dans la photographie? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou c'est plus étendu? Philippe,
pour le moment, c'est vrai qu'on met l'accent beaucoup sur la photographie. Mmh. C'est simplement pour... peut-être parce que je suis moi-même photographe et que j'ai des choses à régler avec la photographie et comment on peut mettre en opposition l'écriture, les mots, l'image enregistrée. Comment cette image enregistrée, elle est fabriquée par une observation intense, concentrée. Comment on peut la différencier de celui qui dessine. Voilà. C'est un petit peu tout ça qui motive pour le moment notre première collection.
Donc c'est une réflexion que tu as depuis longtemps, enfin que vous avez collectivement depuis longtemps sur l'objet photographique, sur l'image de plus généralement.
Ouais. Après, j'ai pas non plus envie qu'on s'enferme dans la photographie, mais pour le moment on a des choses à montrer, des choses à éditer avec la photographie. Après, on étendra peut-être, je l'espère, à d'autres choses.
Déjà, on invite des historiens à faire des livres avec nous.
Ah, alors expliquez-nous ça, c'est quoi? C'est un projet ou c'est en cours?
Non, déjà, on avait un livre pour les derniers rendez-vous de l'histoire. Et puis, normalement, on devrait en avoir un second, un livre d'historienne cette fois-ci, pour les rendez-vous de l'histoire à nouveau.
Ça veut dire que... Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Vous allez, je dirais trivialement, à la pêche aux auteurs ou on vous contacte
En fait, c'est vraiment le fruit du hasard. Il y a un an, on avait sorti notre premier numéro. J'étais vraiment heureux de le voir, de voir l'objet. Et donc ce petit objet qui est format carte postale, 16 pages. Et à l'occasion d'un séjour à Paris, je vais voir un ami historien et pour lui offrir ce petit livre. Et puis on parle tous les deux d'un petit texte qu'il avait écrit après le Bataclan. Mm. Donc cet ami, Christian Ingrao, avait eu une longue discussion avec ses enfants. Et son second fils, à un moment donné, lui dit « Papa, si tu ne t'impliques pas dans cette histoire, parce qu'il s'agit de notre avenir, le terrorisme, l'Europe, si tu ne t'impliques pas, tu es un lâche. » Donc le père se défendait d'être journaliste. Il était historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'avait pas, selon lui, à s'impliquer dans cette actualité, je dirais. Ce que lui dit son fils le perturbe au point qu'il rédige une lettre qu'il destine à tous les historiens d'Europe. Et donc c'est une lettre, là il sort de sa fonction. C'est une lettre, c'est un appel, c'est une lettre pour moi, qui est de l'utopie, c'est de la poésie. On n'est plus dans une recherche historique. Et ça, ce texte-là m'intéressait beaucoup. Mais j'avais absolument pas l'idée de le publier, loin de là. Enfin, j'étais dans mes petites histoires de photographie et d'art plastique, de plasticien, etc. Enfin, et on était en période préélectorale. Et je lui demandais pourquoi ce texte n'avait pas été publié par ces grands éditeurs. Donc la réponse était ce texte est trop court. Ça n'intéresse pas les grands éditeurs. Et il m'a dit, fais-le, toi. Et donc, je suis rentré de Paris en ne pensant qu'à ça, dans le train, en me demandant comment, dès le début, on pouvait faire un hors-série. Donc, tout de suite, cet ami Christian Ingrao nous a perturbés et on a décidé effectivement de publier son texte et de l'accompagner de photographies.
De photographies, lesquelles ? Les tiennes, d'autres auteurs
Donc il y a la seconde qui a été publiée, c'est Vanessa Bourdier. Donc elle avait fait il y a longtemps une série de photos comment je pourrais la qualifier cette... C'est une série qu'elle fait en complicité avec sa grand-mère. Et la grand-mère accepte... Ça, c'est un jeu entre la mamie et la petite fille. Et Vanessa fait des photos où la grand-mère simule tous les suicides des vieillards. Donc, c'est un peu... Le dire comme ça, c'est un peu étrange. Mais bon, il y a, dans cette série, il y avait une photo... un portrait de la grand-mère avec une corde au cou. Donc c'était aussi pour parler de l'Europe et de ceux qui envisageaient le suicide de l'Europe. Voilà. Et puis j'ai accompagné aussi, j'y ai mis une de mes photos qui était aussi une commande où là je sors un petit peu de mes démarches un petit peu intimes, personnelles, où là je réponds à une commande. Et là, c'était après Charlie, où on me demande de faire une photo qu'un graphiste avait eu l'idée de faire. C'était de faire une affiche gratuite avec juste un mot, le mot humain, sur une photo qui représenterait un portrait d'un enfant qui fait le U de humain. Et ce graphiste étant gravement malade, j'ai fait la photo, mais après Charlie, donc je l'ai faite d'une manière un peu tragique, quoi. Voilà. Et donc c'est pareil. Les photos, comme le texte de Christian Ingrao, sont des choses qui sont dans les marges de nos habitudes, de nos fonctions, de ce que l'on est. Donc,
et c'est vers ça, c'est ça qui voilà. Nous intéresse particulièrement, voilà. Être décalé.
En l'occurrence, ça a été ça. Ouais. Après, ce petit livre, il a donné des envies à d'autres historiens, d'où notre perspective de faire une nouvelle édition avec une historienne qui est une spécialiste de l'Asie centrale et qui, elle, est une spécialiste de la Première Guerre mondiale. Son secteur, c'est l'Asie centrale, et donc c'est très complexe. Mais elle est très, très intéressée par les rites funèbres, par la mort. Et donc, on a des textes, et elle fait des photos. Donc, nous, notre l'association, là, est une sorte de guide, puisque on essaie de marier la photographie et les mots, sans que les mots soient des légendes et sans que la photographie soit de l'illustration. Donc, d'où la difficulté parfois. Voilà.
Oui, c'est bien. Je vais le noter, ça. Très bien. François, quel rôle finalement ? Alors François, bonjour, je te représente pour nos auditeurs. On a fait des émissions ensemble du Vent dans les pages dans ton café à l'époque où tu étais patron du Liberté. Donc les livres, ça te connaît un peu. Mais tu es dans l'édition depuis longtemps aussi, toi.
Oui, parce que quand Vue d'Ardard s'est créé, Bon, c'était une association d'artistes, ça a été créé pour monter des expositions et ainsi de suite. Et moi, j'avais envie de faire des livres d'artistes, avec les gens de Vudarda, puis d'autres. Donc, à ce moment-là, je me suis branché dans l'association. On a créé une branche pour les éditions et j'ai fait quelques livres, surtout avec des gravures.
Et donc, avec des artistes du coin ?
Avec des artistes du coin et de plus loin.
Et de plus loin aussi.
Oui, oui.
D'accord. Mais ça existe toujours ?
C'est en sommeil.
Encore un projet qui ne demande qu'à être réveillé.
Oui, peut-être. Mais là, on s'est servi des restes de mon premier projet.
Ouais.
Parce qu'on l'avait mis en sommeil, j'ai des livres, mais il y avait de l'argent sur les comptes en banque. Donc, on s'en est servi pour relancer les éditions l'été.
Bah oui, parce que
cette histoire. C'est le nerf de la guerre. Voilà, on est toujours
on
pris
peut pas y
par.
Échapper. Ouais.
Difficile.
Ouais, difficile.
Et puis, les projets, on appelle quand même souvent d'autres, en fait.
C'est ça. Et puis, c'est quand même une forme de continuité, parce que c'est quand même des livres d'artistes. C'est. Voilà.
Alors, ça chemine doucement vers la fin déjà. Je voudrais quand même. Non, mais si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment là. je voudrais quand même qu'on rappelle. Alors, d'après ce que j'ai compris, on peut vous voir les éditions Liété. On pourra vous voir au Salon du Livre des Rendez-vous de l'Histoire. Donc, qui va se dérouler comme chaque année en mois d'octobre. On sait les dates, aux alentours du 10 au 14,
je crois.
Oui, c'est souvent c'est le premier ou deuxième de week-end d'octobre. Okay. Oui.
Vous savez le thème ?
On me l'a dit.
Ah, et t'as oublié.
Et j'ai oublié.
C'est l'oubli.
Le pouvoir de l'image.
C'est le pouvoir de l'image.
Ah oui, le pouvoir des images.
Ouais, justement, ça tombe bien.
Alors là.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres. Oui, est-ce qu'on peut vous voir ailleurs, là, sur des salons, sur. Donnez-nous votre calendrier.
Le mois prochain, on sera présent à la Fondation du Doute.
Ah, très bien. Voilà. Alors, le mois prochain.
À partir du 7 juin.
À partir du 7 juin, d'accord.
Et. Aux promenades photographiques de Vendôme.
De Vendôme, oui. Voilà. Magnifique promenade, d'ailleurs.
On aura une petite place. Voilà.
On en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très intéressant, votre façon aussi de rencontrer le public qui doit lui-même rencontrer ces œuvres papier que vous faites. C'est que j'ai l'impression que dans ces petites éditions, il y a toute une façon un peu différente de rencontrer un lectorat potentiel en expliquant le projet, en partageant des histoires. Moi, je me souviens, j'ai découvert vos livres sur le salon de Rendez-vous de l'Histoire l'année dernière et tu m'en as parlé et le fait que tu m'en parles m'a énormément plu en fait. Je pense qu'il n'y a pas que la rencontre avec l'objet, il y a aussi la rencontre avec les personnes qui imaginent cet objet.
C'est bien, mais j'espère que ça t'a aidé,
oui, je crois.
Ça t'a permis de dire « oh, faut y aller ».
On imprime, allez, on imprime.
Allez, on imprime.
Fais péter l'imprimante, non pas l'imprimante.
Non, mais c'est vrai, l'échange, c'est toujours passionnant, c'est l'échange. Tout seul dans son coin, on n'est rien, quoi. Voilà, l'échange, la communication et le.
Ouais, et voilà, vous êtes au bon endroit. Lolita, tu peux rappeler La Moindre des Choses, c'est quand
L'émission ?
Alors, l'émission d'abord, s'il te plaît.
Alors, donc, La Moindre des Choses, c'est plein de choses, parce qu'en fait, j'ai l'impression que maintenant, La Moindre des Choses, c'est toute ma vie. Mais au début, c'était une émission de radio, donc de documentaire, sans commentaires, sans ma voix. Autour de la vie quotidienne des gens, c'est sur Studio Zef. Maintenant, ça prend la forme d'entretien, mais bon, je vais pas. Ça fait 4 ans que ça existe, donc il y a pas mal d'émissions en ligne et elles ont beaucoup évolué entre la première et la dernière. C'est accessible évidemment sur le site de studiozef.fr et c'est accessible aussi sur un audioblog Arte Radio qui s'appelle La Moindre des Choses. Et puis, La Moindre des Choses papier. Pour le moment, il faut me contacter personnellement. mais bientôt, je l'espère, autour d'un site internet du même nom et puis peut-être d'une association qui pourrait porter le projet et tout ça. Bon, ça va peut-être s'amplifier.
Si jamais il y a des gens intéressés pour te proposer des choses, on peut.
Oui.
Ou c'est trop tôt ?
Non, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Sur mon adresse personnelle, lolita.voisin@gmail.com. Il y a une adresse pour la revue, mais. Mais elle va changer.
Ouais, elle va changer. Mmh. Bon. De toute façon, quand on en saura un peu plus, à ce moment-là, je te demanderai des détails et puis je mettrai ça sur le site, enfin sur la page du Vent dans les pages. Donc voilà, on se tient au courant, quoi. Mmh. Hein. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci Véronique.
Et puis, chers auditeurs, je vous dis à la rentrée en fait. Hein,
on peut leur souhaiter un bel été du coup.
Du coup, alors voilà. Ah, oui.
Mais qu'ils n'oublient pas tout en route.
et c'est la moindre des choses.
Ils sont taquins. Bon, à très bientôt à la radio.